Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Deschênes, présidente de l'Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. En 1989, elle était la première femme professeure à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Notre deuxième invitée, Chloé Legris, est ingénieure chargée de projet à l'Astrolabe du Mont-Mégantic et scientifique de l'année 2007 de Radio-Canada. Ces deux femmes hors du commun, de deux générations différentes, racontent leur cheminement dans le domaine des sciences et du génie. La rencontre est animée par Chantal Srivastava, journaliste à l'émission Les Années-Lumière de Radio-Canada. Cette activité est présentée en collaboration avec Sciences pour tous, dont la mission est de faire connaître et de promouvoir la culture scientifique et technique dans notre société. Il y aura un tirage à la fin de la présentation. Vous avez, en principe, eu un petit coupon tous. Tirage d'un livre intitulé Le leadership des femmes en STIM, publié par les presses de l'Université du Québec. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la conférence, que vous pourrez d'ailleurs réentendre en balado-diffusion sur le portail de BNQ. Vous pouvez le dire à tous vos amis. Et merci de... Alors, je vous souhaite à tous une bonne rencontre. Au revoir.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie beaucoup d'être venus en ce beau midi ensoleillé entendre parler de femmes et de sciences, parce que certains auraient peut-être eu envie d'aller prendre l'air, mais je pense que ça vaut la peine de prendre l'heure et quelques qui vient pour prendre le temps d'entendre ce que Claire Deschênes et Chloé Legris ont à vous raconter. Alors, elles sont dans la première rangée en avant, et Madame Deschênes, Chloé Legris, et je prends quelques minutes pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se dérouler ici au cours de l'heure et quelques qui vient. Tout d'abord, je vais brièvement vous parler de chacune avant de les laisser à tour de rôle vous parler d'elles, de leur cheminement et de leur cheminement comme femmes dans l'univers des sciences et particulièrement dans l'univers du génie mécanique, de surcroît, puisqu'elles sont toutes deux ingénieures diplômées en mécanique. Puis, ce sera suivi d'un entretien croisé où elles vont échanger durant quelques minutes sur... être femme dans un domaine où, traditionnellement, on a surtout été habitué à avoir des hommes et où encore aujourd'hui, les hommes sont majoritaires, en tout cas dans les universités, dans les programmes de formation. Et ensuite, il y aura du temps, bien sûr, pour vos questions. Il y a des micros qui sont ici pour vous accueillir. Alors, je commence tout d'abord par vous résumer brièvement le parcours de Chloé Legris, qui sera la première à vous parler. Chloé, peut-être qu'on peut vous avancer. Alors, ingénieure diplômée, génie mécanique, Université de Sherbrooke, et aussi chargée de projet au Mont-Mégantic, c'est bien ça, durant 6 ans. Et son projet, c'est important d'en parler cette année parce que c'est l'année mondiale de l'astronomie, n'est-ce pas? Et si on a ici la première réserve de ciel étoilé au monde, c'est grâce à Chloé. Alors, Chloé Legris, bravo, et je vous laisse prendre le micro.
Bonjour. En passant aussi, l'année mondiale de l'astronomie, et on a tellement médiatisé les problèmes de l'Observatoire de financement dernièrement que je ne peux passer sous silence l'appui que je porte à ce centre de recherche-là. Mais en fait, moi, ma présentation va se dérouler en deux temps. Je pense que c'est moi qui l'active ou... OK. Alors, d'abord, je vais vous parler un peu du projet sur lequel j'ai travaillé pendant 6 années à l'Astrolabe. Il est marqué que je suis chargée de projet à l'Astrolabe, mais en fait, je ne le suis plus. C'est terminé, ce projet-là est terminé. Et puis, mais je vais quand même vous présenter ce qui a été fait parce que c'est ce pourquoi, là, dans le fond, c'est la plus grande réalisation que j'ai réalisée dans ma courte carrière encore, là. Donc, je vais vous en parler. Et puis, finalement, je vais conclure un peu avec mon cheminement personnel et professionnel, autant que comme scientifique, comme femme ou comme mère, parce qu'on sait qu'on en parle beaucoup, la conciliation travail-famille. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Et dans un milieu scientifique qui est traditionnellement plus masculin, ça a peut-être aussi eu certains... en tout cas, ça a posé certaines réflexions. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le projet de pollution lumineuse. qu'on peut aussi s'amuser à dire que c'est une façon de gérer notre environnement nocturne de façon plus éco-énergétique ou plus environnementale. Donc, c'était un projet qui avait de multiples retombées. Et puis, c'est pour ça que c'est un projet qui s'est bien incarné dans la population. Mais avant de détailler ce qui s'est fait au Mont-Mégantic et ce à quoi j'ai travaillé pendant 6 ans, je vais brièvement vous présenter, on n'a quand même pas beaucoup de temps, donc je vais quand même prendre le temps de présenter la pollution lumineuse, mais ça va être assez bref, parce que dans toutes les conséquences que la pollution lumineuse a, il y a nombre de choses qu'on pourrait dire, mais on va y aller à l'essentiel ce midi. Donc, évidemment que la pollution lumineuse... Je me rends compte qu'il... OK, non. Je pensais qu'il manquait une diapositive. Donc, la pollution lumineuse, évidemment, c'est la lumière qui, on la définit, bon, d'abord comme la lumière qui se projette dans l'atmosphère la nuit et qui fait en sorte que le fond du ciel est de moins en moins noir parce que la lumière est réfléchie dans les particules de l'atmosphère, que ce soit l'humidité, les poussières, les polluants. Alors, toute cette réflexion de lumière-là fait en sorte que le ciel est de moins en moins noir et qu'on voit de moins en moins bien les étoiles. Donc, une des principaux effets de la pollution lumineuse, c'est que ça voit le ciel étoilé. Et puis, sur cette image, qui a voyagé un peu partout à travers le monde parce qu'elle est très évocatrice, nous montre, à votre gauche, un ciel étoilé sans pollution lumineuse, où on peut voir la Voie lactée qui est notre galaxie. Et puis, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'astronomie, je me plais à dire que notre galaxie... dans le fond, elle a la forme d'un disque ou d'une pizza. Et puis, si on se plaçait au centre, si on était un pépéroni au centre de la pizza puis qu'on regarde la croûte, là, bien, c'est ça qu'on voit dans le ciel, la traîne des branches. C'est comme la croûte de notre galaxie. C'est la fin de notre galaxie. Alors, la Voie lactée, c'est ce qu'on peut voir dans un ciel où il n'y a pas de lumière, où est-ce que l'environnement nocturne est naturel. Et cette photo-là a été prise à 50 km en banlieue de Toronto. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Considérant la grosseur de la ville de Toronto, ben en fait, c'est que ça a été pris pendant le blackout qu'il y a eu en 2003 à Toronto et à New York. Blackout total, plus d'électricité dans les villes. Et les gens ont découvert un spectacle extraordinaire qui s'appelle « Le ciel étoilé » et que beaucoup de gens n'avaient encore jamais vu, tellement qu'il y en a qui ont appelé les autorités publiques parce qu'ils se demandaient ce qu'ils voyaient dans le ciel. Alors, c'est dire comment, des fois, on est déconnecté de notre environnement. Et puis, ce qui est arrivé là l'illustre très, très bien. Alors, évidemment, la photo de droite, c'est après le retour de l'électricité. C'est ce qu'on voit en banlieue d'une grande ville, un ciel qui est délavé. Et puis, les gens des villes qui vivent dans des environnements comme ça n'ont pas conscience de ce qu'ils perdent parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils ne sont pas habitués de le voir. Puis, à l'inverse, les gens comme dans la région du Mont-Mégantic, qui vivent sous un ciel où soir après soir, ils peuvent voir les étoiles, voir la Voie lactée, n'ont pas conscience que c'est une richesse parce qu'ils la voient tout le temps. Alors, on a tout lieu à faire en sorte que ces gens-là se parlent et qu'on puisse protéger nos étoiles. Ensuite, bon, la pollution lumineuse provoque l'éblouissement. Alors, tout ce qui est mauvais éclairage, tout ce qui est un éclairage qui va éblouir l'œil, qui va rentrer dans nos maisons. Donc, il y a toutes sortes d'autres effets négatifs liés à la mauvaise utilisation de l'éclairage de nuit. Et puis là, on en voit un bon exemple où est-ce qu'on a pensé, on a cru à tort que de mettre une grosse lumière, là, ça allait améliorer notre sécurité et puis qu'on allait très bien voir. Mais dans les faits, quand notre œil est ébloui par une lumière qui est mal dirigée ou qui est trop puissante, notre pupille se contracte et fait en sorte qu'on voit moins bien, parce qu'évidemment, si notre pupille se contracte, on a moins de profondeur de champ. Et la nuit, ce qu'on veut, c'est avoir la pupille la plus dilatée possible pour voir le mieux possible. Alors, notre pupille se contracte sous l'effet de l'éblouissement et le piéton qui est dans le stationnement qui est là, bien, on le voit très peu. Alors, on pense souvent... bien faire en utilisant ce genre de système-là, mais on crée d'autres problématiques. Alors, souvent, on essaye d'éclairer la nuit comme on éclaire le jour, mais c'est une mauvaise façon de gérer notre éclairage. Puis vous allez le voir un petit peu avec des photos de ce qu'on a fait dans la région du Mont-Mégantic. Alors, évidemment, les débordements de lumière, je vous parlais de l'éblouissement, on appelle la lumière intrusive. Intrusive n'est pas français, mais j'aime bien l'utiliser quand même parce que c'est très évocateur comme mot. Génère de la lumière intrusive. C'est la lumière qui pénètre dans nos maisons, sur nos terrains. C'est la lumière qui est non désirée. C'est de la lumière qui provient de l'extérieur de notre propriété. Puis en fait, il n'y a aucune raison, aucune justification pourquoi notre voisin, le concessionnaire d'automobile, peu importe, éclaire dans notre maison. Il y a beaucoup de gens à qui que ça dérange. Et cette dame-là, qui vit à proximité de concessionnaire automobile, est grandement perturbée par la lumière intrusive. Alors, on voit comment la lumière se propage sur l'arbre et sur sa maison. C'est une perte d'énergie considérable parce qu'éclairer la cime des arbres ne sert à personne. Et éclairer la résidence de cette dame-là ne fait que lui nuire. Alors, soir après soir, elle vit une grande perturbation parce qu'il fait clair constamment dans sa maison. Donc, ça, c'est un cas flagrant de lumière intrusive. Et si on regarde l'intérieur de sa maison, je fais une ombre ici. Alors, c'est vraiment naturel. Les photos sont très, très réalistes. Là. Souvent, on peut dire, ouais, il y a des trucages photos ou on joue avec les temps de pause. On avait vraiment fait l'effort, dans toutes les photos qu'on a prises au cours de ce projet-là, de rendre l'effet visuel tel qu'il est. Il y a des techniques photos, on superpose des photos pour pouvoir avoir un rendu comme on le voit et non pas une surexposition pour vendre notre salade. Là. Donc, je tiens à le préciser. Donc, alors ça, c'est le paysage. On parle aussi de paysage nocturne. Hein? Ça, c'est le paysage de cette dame-là, parce qu'année après année, on a multiplié le nombre d'ampoules, le nombre de poteaux d'éclairage, et puis on pourrait très facilement remédier à ce genre de situation-là en utilisant des bons systèmes d'éclairage et en évitant, évidemment, les excès et les abus. Et puis la lumière intrusive peut faire en sorte, si elle arrive dans notre chambre à coucher, de perturber notre sommeil. Et on se penche de plus en plus sur les effets de la perte de la nuit sur la santé humaine. Alors, provoque des troubles du sommeil, réduit la production d'hormones qui sont actives la nuit. Par exemple, la mélatonine. La mélatonine est une hormone qui va être active seulement en pleine noirceur et la lumière inhibe sa production. Et la mélatonine a pour effet d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Alors, de plus en plus, on commence à se questionner sur les phénomènes de perte de noirceur pendant la nuit, pendant le sommeil, sur l'être humain. Puis un bon exemple, ceux qui ont des adolescents, on se demande pourquoi nos ados dorment autant. Bien, c'est que les hormones de croissance sont beaucoup plus actives la nuit que le jour. Et comme ils grandissent beaucoup dans cette période-là, eh bien, ils ont besoin de dormir. Et il y a récemment une recherche qui a été faite aussi qui démontre que les taux d'incidence de cancer du sein sont beaucoup plus élevés chez les femmes qui vivent en milieu urbain. Donc, c'est documenté dans des revues scientifiques. Alors, juste pour dire que la nuit est importante. La nuit est essentielle à la vie. Donc, impact sur les écosystèmes également. Gaspillage d'énergie. Toute cette lumière-là qu'on envoie un peu partout à profusion, que ce soit vers le ciel, que ce soit chez le voisin, que ce soit une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, c'est évidemment un grand gaspillage d'énergie parce qu'on gère mal cette énergie-là qui est l'énergie lumineuse. En Amérique du Nord, on estime que c'est 1 milliard de dollars à chaque année qui est gaspillé pour éclairer le ciel. Et au Québec, ce serait plus de 50 millions de dollars qui seraient littéralement envoyés dans le ciel. Alors, je vais passer un peu vite. Donc, si on revient un petit peu à ce qui s'est fait au Mont-Mégantic, on a d'abord identifié une problématique locale croissante. Alors, depuis la construction de l'observatoire en 1978, on avait constaté que la pollution lumineuse avait doublé en l'espace de 20 ans. Et puis là, on voit un panorama qui a été fait il y a quelques années. Donc, on voit bien la ville de Sherbrooke et les petits villages environnants. Donc, cette photo-là a été prise autour de l'observatoire pour bien mesurer l'impact visuel de la pollution lumineuse. Et ici, cette photo-là, qui est une vue de l'intérieur de l'observatoire. Dans l'observatoire, il y a des fenêtres pour permettre l'aération, parce que plus il fait froid, mieux c'est pour faire de l'observation astronomique. Alors, vue de ces fenêtres-là, ça, c'est la seule photo qui est surexposée. Donc, de ces fenêtres-là, on voit à droite, en direction de Sherbrooke, qui est à 60 km à vol d'oiseau, et un petit village qui s'appelle La Patrie, qui est à peine à 15 km. La photo est légèrement surexposée, de quelques secondes, mais on peut imaginer quand on fait des mesures astronomiques, qu'on veut mesurer la lumière d'une étoile, d'une galaxie, comment la pollution lumineuse peut nous affecter. Parce que quand on prend une photo d'une étoile dans le ciel, c'est comme si on faisait clic sur notre appareil photo et qu'on laissait le diaphragme ouvert pendant 4, 5, 6 heures pour capter cette lumière-là. Alors là, ici, en quelques secondes, on voit comment la lumière arrive sur l'observatoire. Imaginez, après 4 heures de temps, toute l'accumulation de lumière. Donc, ça nuit aux observations astronomiques de façon importante. Il y a certains travaux de recherche qui n'ont pas été possibles de se faire à l'observatoire à cause de cette problématique-là. Donc, la pollution lumineuse compromet les activités de recherche, d'éducation et de tourisme en astronomie au Mont Mégantic, qui est le plus important centre de recherche en astrophysique et en astronomie au Canada. Ce n'est pas le plus gros télescope, mais à cause de la qualité de la formation des instruments, la qualité du ciel aussi, ça en fait un des plus performants. Alors, suite à tout ça, on a décidé de mettre sur pied, c'est pas moi qui ai décidé de mettre sur pied, mais les directeurs de l'Observatoire de l'Astrolabe du Parc du Mont-Mégantic, de mettre un projet sur pied qui a vu le jour en 2003. Et là, j'ai été engagée à ce moment-là. Donc, Astrolabe est le porteur de dossier. On avait 6 mois pour mettre en place un plan d'action puis bâtir un projet sur une période de 3 à 5 ans. Et puis, on a vraiment travaillé avec le milieu parce qu'il fallait travailler avec 3 MRC, donc Sherbrooke et 2 autres MRC, Granite et Haut-Saint-François. Donc, il fallait vraiment rallier tous les gens derrière ce projet-là parce que la cause des astronomes ne touche pas nécessairement tout le monde. Alors, vraiment, la concertation était très importante. Alors, on a travaillé en sensibilisation, réglementation et avec un programme de conversion. Je vous résume les grandes étapes du projet, là. Donc, en 2003, un démarrage. En 2005, il y a un premier règlement, c'est le premier règlement de la sorte qui a été adopté au Canada sur le contrôle d'éclairage et qui visait à la fois la protection du ciel étoilé et l'efficacité énergétique, donc de réduire notre consommation d'énergie par des mesures réglementaires appropriées. En 2006, c'est la MRC du Haut-Saint-François. En 2007, la ville de Sherbrooke. En 2007, c'est l'année aussi où est-ce qu'on a reçu la reconnaissance, la certification comme étant la première réserve de ciel étoilé au monde grâce à toutes les actions qu'on avait mises en place, dont le programme de conversion de l'éclairage. Et puis, en 2008, le projet s'est terminé. Alors, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic. Je vais vous parler rapidement du programme de conversion de l'éclairage, parce qu'on a voulu, dans cette zone-là... Oui, ça fait combien de temps, Chantal? 15, OK. Donc... Dans la réserve de ciel étoilé, on trouvait important de pouvoir faire une conversion de manière vraiment à faire la démonstration que ce qu'on amenait comme approche de gestion de l'éclairage était pertinente, était viable, puis avait des bénéfices au niveau énergétique, puis ne compromettait pas la sécurité. Donc, on a mis sur pied un projet sur une période d'environ 2 ans où est-ce qu'on a remplacé 3 000 quelques luminaires. On a visité 700 sites, donc 700 commerces, agriculteurs, industries, particuliers, pour leur proposer des systèmes de remplacement pour leur éclairage. Alors, ça a donné ceci. Alors, on va se promener dans les villages pour voir qu'est-ce qui a été fait dans ce programme de conversion-là, où est-ce qu'on allait remplacer les appareils par d'autres appareils d'éclairage qui sont plus performants, qui n'éclairent pas le ciel et qui vont répondre aux besoins et non pas éclairer à tout azimut. Alors, on va se promener dans les villages. D'abord, au niveau, dans le secteur industriel ici, c'est une industrie qui avait des luminaires à vapeur de mercure, donc une lumière blanche de 400 watts. Donc, c'est plus ou moins efficace comme type d'ampoule et en plus, c'est éblouissant et ça éclaire vers le ciel. Alors, nous, on a proposé un système très, très simple. On n'a pas fait de révolution technologique dans ce projet-là, là, pas du tout. C'était vraiment de l'application terrain d'une nouvelle approche. Alors, on a mis des luminaires de rue, de type de rue, 70 watts, donc une réduction là, de 75% au moins là, de la consommation. Donc, voici ce que ça donne, de 400 watts à 70 watts. Alors, une très, très grande économie d'énergie. L'entreprise a économisé 2 200 $ annuellement et a rentabilisé son investissement en quelques mois seulement. Une autre entreprise, quand je vous disais qu'un éclairage peut être éblouissant puis ne va pas nécessairement améliorer Notre visibilité, ça, c'est une autre, c'est une série. Donc, c'est des gros séchoirs à bois. Là, on s'entend là, qu'on est en campagne, puis on est dans un milieu où est-ce qu'il y a, il y a de la forêt, puis il y a de la coupe de bois, puis il y a des cours à bois là, vraiment abondamment dans ce secteur-là. Et puis là, on avait mis, bon, les traditionnelles lumières, spot blanc qui éclaire, qu'on pensait qui éclairait bien. C'était des 250 watts. Nous, on est allé travailler avec des 150 watts, avec des nouveaux dispositifs beaucoup mieux positionnés. Et puis, on a grandement amélioré la qualité de l'éclairage sur les lieux. Alors, beau petit commerce ici. Malheureusement, l'éclairage est tellement éblouissant qu'on ne voit pas l'enseigne. On ne met pas en valeur le bâtiment non plus. Alors, on a remplacé, on est passé de 250 watts à 50 watts. Donc, ça fait peur. Là. Puis, il y a beaucoup d'électriciens ou des ingénieurs qui ont... Ah non, 50 watts, c'est pas... ça fait peur, c'est trop petit. Hein. 250, ça sonne bien. Fait qu'on aime ça en mettre beaucoup. On aime ça les gros chiffres. Par contre, on est venu montrer qu'avec des petits 50 watts, les piétons pouvaient très bien se diriger vers la caisse populaire et faire leur retrait au guichet automatique. La même chose ici, un salon funéraire qui éclairait là, abondamment, là, l'équivalent de 15 lumières de rue sur une petite bâtisse, c'est pas peu dire. Et puis, ils étaient deux, hein, deux salons funéraires, je crois pas que j'ai les deux là, à vous montrer, mais ils étaient deux à côté de l'autre. Alors là, c'était la compétition, hein, qui va éclairer le plus, puis là, si je faisais lui, il fallait que je fasse l'autre, fait qu'on les a faites en même temps, sur le même pied d'égalité, donc plus de compétition commerciale, on va éclairer juste ce qu'on a de besoin, puis en même temps, on va donner beaucoup plus de cachet à ces commerces. Donc, beaucoup plus sobre, on a beaucoup réduit les puissances, et puis de loin, c'est beaucoup plus joli. Les gens le reconnaissent tous, là, ce qu'on a proposé comme type d'éclairage donne beaucoup plus de cachet et beaucoup plus harmonieux comme environnement, et puis évidemment, les économies d'énergie qui s'en suivent. Dans les rues, même chose, on a réduit de 50 % la puissance. On a réévalué les niveaux d'éclairage requis parce que là aussi, il y a une surenchère. Souvent, pour bien faire, les ingénieurs ou les vendeurs de lumière ou les électriciens vont dire « je vais t'en mettre deux fois plus, ça va être mieux, ça va être plus sécuritaire ». Par contre, là, ce qui arrive, c'est que là, on dépasse constamment les normes qui sont recommandées pour bien voir. Alors nous, ce qu'on a fait, on a juste dit « on va éclairer selon les normes et on ne va pas les dépasser ». Et avec ça, on a fait des gains énormes. Donc ici, de 150 watts à 70 watts, on éclaire beaucoup moins dans les maisons. Alors, il y a des gens qui sont très heureux de ça, mais il y a quand même certaines personnes qui n'étaient pas contentes parce que là, ça n'éclairait plus dans leur salle de bain. Fait que la nuit, là, il fallait qu'ils ouvrent leur lumière. Mais bon, je dis tout le temps aux vieilles, je dis, c'est pas votre rôle d'éclairer la salle de bain ou le fond de la cour de vos résidences. Vous, c'est la rue puis le trottoir, on va s'en tenir à ça. Alors... Donc là, on s'est promené dans les villages, là, on a fait un petit survol des villages, puis on va voir, vu de loin, c'est quoi l'impact. Parce que nous, notre objectif, c'était évidemment de réduire la pollution lumineuse à l'observatoire. Donc, l'objectif, avant et après, est-ce qu'il est atteint? Ben oui! Alors vraiment, le résultat est majeur. À l'observatoire, on était capable de faire des ombres sur la coupole avant ce programme de conversion-là. Maintenant, on est tout obligé de reprendre nos vieilles habitudes et sortir les lampes de poche pour se promener au sommet du Mont Mégantic. Quand c'est nuageux, on voit presque plus les nuages au-dessus des villes parce que la lumière est vraiment concentrée vers le sol, donc beaucoup moins de réflexion. Alors, ça a changé là, de façon majeure l'impact sur le paysage. Puis même les gens qui vivent dans ces milieux-là l'ont remarqué. Mais évidemment, les chercheurs et les gens qui travaillent au sommet, eux autres sont complètement estomaqués des résultats. Donc, 16 municipalités. On n'a pas travaillé avec Sherbrooke encore. Là. C'est beaucoup trop gros. Ça aurait coûté beaucoup trop cher. Mais les résultats sont vraiment tangibles. Puis on est très, très contents. Mais malheureusement, l'observatoire est menacé pour d'autres raisons aujourd'hui. Alors, petite pensée d'Hubert Reeves et d'Albert Einstein pour conclure cette partie plus technique ou professionnelle là, de la présentation. Donc, l'être humain prend conscience de l'univers qui l'entoure et s'émerveille de son ordre et de sa beauté. Et la chose la plus belle qui soit est le mystère de l'univers, berceau de l'art et de la science. Car souvent, on oublie que l'univers, le ciel étoilé, a été aussi une source d'inspiration intarissable pour les poètes, les peintres, les écrivains, les philosophes, etc. C'est le berceau de la science. Alors... Maintenant, je vais vous parler là, brièvement de mon cheminement à moi professionnel que je considère assez atypique. Tantôt, je disais à Madame Deschênes comment que je me sens à la fois comme scientifique et comme ingénieure, pas tout le temps traditionnelle. Là. Je me suis cherchée beaucoup à travers ces rôles-là, puis même le terme ingénieur puis scientifique me collait mal à la peau. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je le prends très bien, mais plus jeune, j'avais de la misère à me définir complètement à ce niveau-là, parce que au début, quand t'es une fille forte en sciences, on a souvent l'impression de dire hey, « t'es forte en sciences, faut que t'ailles faire des sciences ». Donc, il y a une espèce de pression sociale, surtout de ma génération, où est-ce que hey, on a ce regard-là, où est-ce que t'es une fille, t'es forte en sciences, go fonce. Par contre, pour moi, c'était pas si simple que ça. J'ai étudié en communication avant, j'aimais beaucoup aussi les arts. Mais par contre, je m'ennuyais beaucoup des sciences quand j'étais au cégep. Fait que tous mes cours complémentaires, j'allais prendre des cours de maths. Donc là, je me suis dit, bon, puis là, je m'en suis vraiment ennuyée. Puis en même temps, il y a un côté rationnel en moi qui a dit, bon, va faire tes sciences. Puis finalement, ben, en 1999, je suis devenue ingénieure en mécanique. Et puis là, ben, ça a été la réalité du travail. Sauf que pendant mes études, il m'est arrivé deux, on va appeler ça des accidents, mais c'est pas vraiment des accidents, mais deux grosses bédaines qui m'ont poussée. Fait que c'était la réalité du travail ou bien de prendre soin de cette petite frimousse-là. Donc, j'avais deux petits garçons à la fin de mon bac. Par contre, mes questions demeurait au niveau professionnel. J'ai travaillé un peu, mais en même temps, je n'étais pas totalement satisfaite parce que je voyais le cadre dans l'ingénierie très rigide, avec peu de temps pour la famille. Donc, j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai pris le temps de m'occuper de mes enfants et de donner des charges de cours à temps partiel pour pouvoir rester quand même dans le domaine scientifique. Je trouvais que ma formation était extrêmement importante. J'ai appris beaucoup et puis je voulais pas mettre ça de côté, mais en même temps, je voulais trouver quelque chose qui me corresponde plus, tant d'un point de vue environnemental, qu'au niveau de mes valeurs, qu'au niveau de la conciliation travail-famille. Fait que moi, j'étais partie avec cette ligne de pensée-là. J'ai dit, bon, faut que ça accommode ma réalité familiale, faut que ça accommode mes valeurs personnelles. Et puis là, c'est en 2003 que cette belle histoire d'amour a commencé au Mont-Mégantic, où est-ce que je voyais mon rôle comme scientifique, mon rôle à faire avancer la cause environnementale. Il y avait un volet communication qui était très important aussi, parce que j'ai fait beaucoup de présentations, beaucoup de formations, puis ça me correspondait beaucoup aussi. Et puis évidemment, le côté plus poétique, plus rêveur, ben là, j'étais vraiment aux petits oiseaux, c'était vraiment un projet là, fait pour moi, puis j'étais très, très contente de ce qui m'est arrivé. Donc, c'est une aventure extraordinaire qui a pris fin en 2008. Puis j'ai mis quelques photos d'événements qui m'ont particulièrement marquée au cours de ce projet-là. Donc, à gauche, on voit une photo avec Steve McLean, qui est un astronaute canadien. Alors, j'étais bien contente, là, il me serrait sur sa tête. C'est vraiment un honneur de pouvoir discuter avec cet homme-là puis de le rencontrer. À droite, j'ai eu la chance d'aller donner une conférence aux îles Canaries, qui était chapeauté entre autres par l'UNESCO et d'avoir des gens à travers le monde qui faisaient le même travail que moi, parce qu'on s'entend des gens qui faisaient le même travail que moi au Québec, puis même au Canada, il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, c'est des gens de partout à travers le monde qui connaissaient le même genre de défi que moi, dans différents observatoires, différents lieux. Et puis finalement, ben la nomination que j'ai eue, qui était vraiment une surprise, et puis que complètement inattendue, mais que j'ai pris avec grand plaisir, ça a été une très, très, très belle aventure. Et puis là, ben c'est terminé. Et puis cette année, avant de relever des nouveaux défis, ben je suis partie en vacances avec mes deux garçons qui sont rendus beaucoup plus grands aujourd'hui. On est allé voyager 6 semaines au Costa Rica. Et puis maman recommence à travailler la semaine prochaine. Donc, quelques petites réflexions là, pour conclure ma présentation qui m'ont interpellée. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ben moi, dans toute cette histoire-là, j'ai essayé de suivre mon cœur, j'ai pas été capable d'être juste dans la raison, puis finalement, ça m'a bien servi. Puis je pense que peu importe ce qu'on fait, il faut y aller aussi avec notre cœur, puis les choses vont bien aller, c'est ce que je crois. Ce n'est pas dans la science qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la science. Et ça, je trouve que ça vaut dans tout. C'est le chemin qu'on prend qui est important. C'est le chemin, pendant qu'on le prend, on doit y trouver du plaisir. Et ce n'est pas seulement l'objectif final. Et en science, on sait comment c'est infini, hein, la quête de connaissances. Et le processus pour avoir des résultats, c'est infini. Donc, il faut vraiment prendre du bonheur à faire des sciences. Et je pense que ça s'applique partout. Mais la science nous amène aussi à constamment se questionner. Et ça, c'est une grande richesse que j'ai acquise en ayant des études en sciences et en travaillant dans ce domaine-là. C'est que l'important est d'avoir cesse de se questionner. Et ça aussi, ça vaut partout dans la vie. Et c'est une bonne base qu'on nous donne en étant scientifique, de se questionner constamment. Et puis, c'est ça. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Parlant de questionner, Chloé, petite seconde. Je prends curieux, je pose des questions. Moi aussi, c'est ma profession. Nouveau travail qui commence la semaine prochaine. Des petits détails. Toujours dans le domaine de l'énergie.
L'énergie, oui. Je m'en vais travailler pour un laboratoire de ressources naturelles Canada, CanMet Énergie, donc dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc.
Bien, merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous aurez droit à des entretiens croisés entre Chloé Legris, qui vient de nous parler de son parcours et de ses accomplissements, et Mme Deschênes, que j'inviterai à se joindre à nous, qui va maintenant prendre la parole. Alors, Mme Deschênes, je vous présente brièvement, vous me direz si j'erre ou si je mets le doigt sur ce qu'il faut retenir de vous. Vous avez étudié en génie mécanique, entre autres, à l'Université Laval, à l'École nationale polytechnique de Grenoble en France, et vous êtes devenue, en 1989, c'était donc il y a 20 ans, la première femme professeure de génie à la Faculté des sciences de l'Université Laval. Exact, me dit-elle. Alors, vous êtes spécialiste en mécanique des fluides, turbines hydrauliques, je soupçonne que vous allez nous donner des détails là-dessus. Et malgré tout ce travail de recherche, donc, vous avez été très active en sciences, mais ça ne nous a pas empêché de vous impliquer pour faire avancer la cause des femmes en sciences et en génie. Depuis quoi, une douzaine d'années?
À peu près.
Alors, vous êtes d'ailleurs maintenant présidente de l'Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, que vous avez fondée. Également, au fil des ans, vous avez été membre, entre autres, du Conseil du statut de la femme, présidente du Comité des femmes en ingénierie de l'Ordre des ingénieurs du Québec et titulaire de la chaire de recherche du CRSNG sur les femmes en sciences et en génie. Et votre implication sociale dans ce domaine a été maintes fois récompensée. Entre autres, mentionnons l'an dernier, en 2008, le Distinguished Service Award de l'INWES, l'International Network of Women Engineers and Scientists. Alors maintenant, je vous inviterai à nous parler plus précisément, avec plus de détails, de votre parcours, de votre science aussi. Merci.
Merci, Chantal. Je vais essayer de faire marcher la technologie qui est là. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller chercher l'autre. Hein? Escape, je viens de le faire, justement. Essayer de voir si on trouve l'autre ici. Ah, il est ici, je crois. OK, j'ai trouvé. Oui. Hein, la technologie, on va s'en sortir. Alors, ça, c'est pas le premier. Et voilà. Alors, ça me fait un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et de vous parler un petit peu de mon parcours et de ce que je fais dans la vie et de faire ce tandem avec Chloé. Et je vais vous parler d'hydroélectricité et de la recherche que je fais au laboratoire de machines hydrauliques. Donc, c'est une suite un peu de Chloé, sauf qu'il ne faudrait pas le voir comme une volonté d'exprimer que l'électricité est capable de tout faire ou qu'on devrait aller dans toujours avoir plus d'électricité. Mais je vais essayer de vous montrer que même quand on fait de la recherche fondamentale et appliquée sur l'hydroélectricité, on est capable d'aller en chercher des éléments environnementaux et de faire changer un petit peu les mentalités. Alors, mon deuxième point sera là-dessus. Le troisième sur les femmes en sciences, un besoin de clair de femmes en sciences et de jeunes, d'ailleurs, en relève scientifique, des hommes et des femmes. Et ce que j'ai appris au travers des 12 années de mon parcours sur les femmes en sciences et un peu sur les leaderships des femmes, et ça m'amènera vers la fin. Alors, Chantal a très bien introduit mon parcours. Je voulais simplement mentionner qu'effectivement, le baccalauréat, c'est en 74-78. Donc, quand il commençait à avoir des femmes en génie, Chantal me le demandait tout à l'heure, mais j'étais la seule femme dans toutes les années de génie mécanique à l'époque. Donc, c'était vraiment moi qui me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai travaillé pour Hydro-Québec. Après, j'ai fait une maîtrise, un doctorat en France qui a été mentionné. Professeur depuis 89, donc c'est ma 20e année, et où j'ai pu renouveler le laboratoire. Et la chaire a été mentionnée aussi. J'ai travaillé pour INWES et pour la FESTIM. On va en parler un tout petit peu. Et ça veut dire, grosso modo, après 20 ans de carrière, 23 étudiants aux études supérieures, maîtrise et doctorat que j'ai pu former, 56 stagiaires, c'est pas un beau chiffre, mais c'est un chiffre qu'on utilise à toutes les sauces, mais ça fait rien. Je suis tombée sur le 56 des stagiaires de premier cycle, autant pour la chaire que pour mon travail de recherche régulière, et 15 professionnels, et 250 étudiants ont pu passer dans mes cours de laboratoire de mécanique des fluides et de turbomachines. Donc, j'en rencontre un peu partout. Et dernièrement, je me suis fait livrer une pizza. Et qu'est-ce que j'ai vu? Un de mes étudiants, bien sûr. Alors, dans le, très brièvement, sur l'hydroélectricité, le Canada vient d'être déclassé par la Chine comme le plus grand producteur. On a, en fait, 70,9. Mais en fait, on est plutôt autour de 72-73 gigawatts de capacité installée au Canada, devant le Brésil et les États-Unis. On voit ici les États-Unis, le Canada et le Québec. Je suis désolée, j'ai deux transparents en anglais. Alors, je n'ai pas trouvé la version en français. Et ce qui est important de voir, je crois, c'est l'importance de l'hydroélectricité pour le Canada et pour le Québec. Donc, on a le Canada ici où on voit que 60 % de notre production d'énergie est hydroélectrique. Et pour le Québec, c'est 95 %. Et je crois que l'hydroélectricité demeure une énergie renouvelable, qu'il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention aux populations, mais quand même, ça demeure une énergie qui est relativement propre. Et c'est une grande chance pour le Québec de pouvoir aller tirer cette énergie-là. On a des possibilités en énergie éolienne, en solaire aussi, qui sont très grandes. Donc, avec le temps, je pense qu'il faudrait éventuellement faire un mix de tout ce qui est renouvelable. Il y a des gros projets en cours au Québec actuellement. Il y a tout le bassin de la Grande qui est en train d'être agrandi. Et il y a le bassin ici de la Romaine, dont on parle beaucoup dans les journaux, et qui est encore en étude, mais qui avance très bien. Alors, en termes de potentiel au Canada, on pourrait développer si jamais on en avait besoin. Mais encore une fois, je voudrais dire que je suis, comme Chloé, pour les économies d'énergie. Mais on pourrait encore développer 44 gigawatts au Québec. Donc, c'est pratiquement la moitié de la consommation canadienne. En Grande Hydro au Canada, on pourrait faire 163 gigawatts. Et peut-être plus intéressant pour nous aujourd'hui, on a une capacité de turbine de basse chute de environ 15 à 20 gigawatts. Donc, basse chute, quand on parle basse chute, c'est 15 mètres et moins. Et pourquoi c'est intéressant? Premièrement, parce que je travaille sur ce type de turbine. Et deuxièmement, parce que c'est moins envahissant, si on veut dire, pour une question d'environnement, puisqu'on va pas chercher, on n'a pas besoin de créer des très grands bassins de rétention. Évidemment, une turbine de basse chute, ça produit moins, mais on a un potentiel qui est quand même intéressant, qui est un tiers, si on veut, de la production actuelle au Québec. Et ça, c'est basse chute pour l'ensemble du Canada. Et en micro-turbine, en petite turbine, on aurait de 8 à 12 gigawatts de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait au laboratoire? Vous voyez ici un doctorant et une professionnelle de recherche. Donc, c'est mon deuxième point. Le laboratoire, donc, quand je l'ai pris, il était petit et j'en ai fait une installation qui est internationalement reconnue. Et son but est de fournir des mesures de performance classique et d'autres types de performance sur les turbines hydrauliques. Qui répond à des normes internationales et réaliser des recherches, troisièmement, axées sur le développement durable, la mesure, la validation numérique des simulations d'écoulement. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Et évidemment, aussi important, ma mission est de former des ingénieurs, femmes et hommes, et des chercheurs, femmes et hommes, pour ce secteur de l'énergie. L'installation ressemble à ceci. Alors, j'ai mis un petit bonhomme pour vous montrer la grosseur. Donc, c'est sur trois étages et on voit la section d'essai ici où on installe une turbine hydraulique modèle et la roue à l'intérieur de cette turbine-là fait à peu près 30 cm. Et le reste, ben, c'est des tuyaux, des pompes, des appareils pour mesurer les écoulements, les chutes et le couple de la machine. Qu'est-ce qu'on fait avec cette grosse installation? On essaie d'aider au développement durable. Donc, l'installation, elle a été d'ailleurs partiellement financée par CADMET, qui est l'organisme que Chloé parlait tout à l'heure, et où on a eu la chance de tester plusieurs microturbines qui pourraient être utilisées dans des endroits où il n'y a pas d'électricité ou à des endroits où actuellement on a de l'électricité qui est produite avec du pétrole. Donc, s'il y a une petite chute, on est capable de remplacer, mettre une petite turbine et de manière mécanique, produire quelque chose qui est moins dommageable. On a ici une turbine qui s'appelle Very Low Head, qu'on a testée et qui est installée à Milo, en France. Et on fait aussi des études de développement durable, aussi des tests sur des grandes turbines, comme on en a au Québec, de Francis, des types Francis, pour essayer d'améliorer la qualité de l'écoulement à la sortie des turbines. Donc, les industriels et les gouvernements de certains pays sont intéressés à avoir une qualité de l'eau qui est meilleure, qui est aérée, pour la faune et la flore derrière les barrages. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'en vient fort. Et je retourne en arrière, cette turbine, on dit qu'elle est ichthyophile, c'est-à-dire qu'elle est, en anglais, on dit fish-friendly, alors qu'elle est gentille pour les poissons. Donc, dans le sens qu'il y a un petit peu moins d'aube, l'écoulement va un petit peu moins vite à l'intérieur et les diminutions de pression et les changements de pression et les changements de vitesse sont moins importants que dans d'autres turbines, de telle sorte que les poissons peuvent passer au travers avec moins de dommages que dans une grosse turbine. Évidemment, on espère qu'elles ne passent pas, mais les poissons, il y en a des fois qui passent. Alors, un projet qui me tient à cœur, que je suis en train de développer dans la même piste, les microturbines et centrales au Brésil, est-ce que vous m'avez reconnu? Il faisait chaud, je pense que vous pouvez l'imaginer. Donc, j'étais sur un bateau entre Manaus et Belém, ça c'est sur l'Amazone, où j'allais rencontrer des collègues à Belém. Manaus, c'est la ville de, pour ceux qui ont mon âge, là, c'est la ville du film Fitzgeraldo. Et vous vous souvenez. Alors, c'est quoi la motivation qui sont derrière ça? Il y a dans l'Amazonie en particulier, ou comme dans le nord du Canada, il y a des régions où il n'y a pas d'électricité. Et en particulier au Brésil, le gouvernement a dit et s'est donné le rôle d'électrifier tous les endroits qui ne le sont pas. Donc, on essaie d'aller aider les populations à le faire. Et j'avais rencontré en 2004 cette grande dame qui s'appelle Dorothée Stein, qui est une religieuse catholique qui vivait à Anapu au Brésil et qui avait pris le parti des populations contre les grands propriétaires terriens qui veulent faire des champs en Amazonie. Alors, cette dame, comme elle était américaine, elle avait la double nationalité. Comme elle était américaine, elle a pris parti de la population. Et malgré les menaces d'assassinat qu'elle a reçues, elle a continué son travail public. Et elle s'est fait assassiner à peu près en 2006, donc quelque chose de terrible. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire dans son petit village d'Anapu? Elle voulait mettre une petite centrale au fil de l'eau qui faisait peut-être 50 kilowatts. Rien, autrement dit, une lumière, presque, ou deux lumières, ou trois lumières, je ne sais pas. En tout cas, tout petit, pour être capable d'avoir un frigo pour les produits locaux. On voit des poissons d'eau douce aussi qui ne sont pas tout petits, hein, dans l'Amazon. Et aussi pour produire réussir à produire des produits en fait qui viennent de la forêt. On voit ici un sac de farine de banane, qui est quelque chose qui est assez bon, mais qu'elle essayait de faire dans son village. Donc quelque part, j'essaie de reprendre ce flambeau-là, mais faire de la recherche et du développement avec un pays étranger, c'est toujours difficile. Donc, on verra si dans l'avenir, j'y réussis. Ce qui m'occupe beaucoup, beaucoup de ce temps-ci, qui est ma recherche régulière, c'est un consortium de recherche en machines hydrauliques. Alors, le but est de créer et de maintenir un centre canadien de recherche pré-compétitive pour le développement de turbines hydrauliques et former la relève pour le secteur de l'hydroélectricité. Recherche pré-compétitive avec des compétiteurs, c'est très difficile. Donc, je suis assez fière de tous ces industriels qui travaillent ensemble à essayer de développer la science sans encore penser au profit qui va venir par après et qui sont capables de travailler ensemble pour décupler, si on veut, chacun leur capacité de recherche. On a un premier projet qui est une axialité. Une turbine axiale, c'est une turbine de basse chute. On essaie de... En fait, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre les écoulements à l'intérieur de la turbine, de telle sorte qu'éventuellement, on arrive à faire des meilleures simulations et des meilleures turbines, un meilleur design au bout de la ligne. Alors, vous voyez à gauche le modèle qu'on met au labo et à droite, sa représentation en transparence sur un ordinateur. Et on a ici la roue. En fait, l'écoulement arrive par l'extérieur ici, arrive radial et s'écoule dans cette roue qui ressemble, en fait, on ne la voit pas très bien, mais qui ressemble à une hélice. Et l'écoulement rentre par en haut et ressort par en bas axialement. Alors, on essaie, nous, d'aller voir quels sont les écoulements à l'intérieur. Donc, on mesure par deux techniques laser en particulier. Il y en a une ici qui est un PIV, particule image vélocimétrie. Alors, on a une tranche laser à l'intérieur de l'écoulement. Puis, cette technologie fait qu'on va chercher le champ de vitesse tridimensionnel dans une zone à peu près grosse comme ça, à peu près 20 cm par 20 cm à l'intérieur de la turbine. On a une autre technologie qui est LDV, laser Doppler vélocimétrie, qui est un petit peu plus vieille, qui, elle, permet à l'intérieur d'écoulement d'aller chercher très précisément, encore plus précisément que l'autre, la valeur de la vitesse en un point donné. Donc, comme on déplace le laser, on arrive aussi à aller mesurer un champ de vitesse à l'intérieur de la machine. Et puis, on développe d'autres instruments qu'on a besoin, comme ici des accès optiques et une petite sonde miniature pour aller mesurer les pressions stationnaires. Alors, vous voyez ici le PIV installé. Donc, il y a deux caméras, si vous voulez, ici, et la tranche laser qui est dans le cône en dessous de la turbine, le cône qui est en plexiglas transparent. Et de ce côté-ci, on voit la roue de la turbine, mais par en dessous, avec le laser du LDV. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On cherche à aller comprendre les écoulements, surtout quand on n'est pas au point de fonctionnement optimum ou quand on est en zone de cavitation, c'est-à-dire à très basse pression. Ici, vous voyez des tourbillons à l'intérieur. Alors, nous, les chercheurs en mécanique des fluides, on cherche toujours des tourbillons partout. Alors, ici, il y en a qu'on voit très bien à cause de la cavitation. Ici, en bout de pale. Et ici, on a une torche qui est en dessous de la roue. La cavitation, ça veut dire qu'on descend la pression à l'intérieur de la machine de telle sorte que l'eau se vaporise à l'endroit où la pression est la plus petite. La cavitation, c'est un phénomène particulièrement intéressant parce que c'est comme si on avait une ébullition, donc une espèce de mousse d'eau, si vous voulez, qui est très peu dense, très difficile à simuler numériquement et qui se déplace. Et qui endommage les machines une fois qu'elles réexplosent, une fois que les bulles de vapeur réexplosent quand la pression réaugmente. Donc, on appelle ça une maladie, si vous voulez, des machines. mais c'est intéressant à savoir où est-ce qu'elles sont. Et puis, ce phénomène-là permet de révéler, si vous voulez, là où il y a des tourbillons. Alors, j'ai apporté un petit film, j'espère que ça va marcher. C'est un bruit de machine, hein? C'est un bruit de turbine, forcément. Donc, moi, je suis dans les machines. 10 minutes, d'accord? Et on voit que cette torche tourbillonne en dessous de... On va essayer d'en revenir. OK. Alors, ici, on a une simulation numérique. Ah, non, c'est faux. Ça, c'est justement le laser. En dessous de la roue, ici, on aurait la roue. Et le laser PIV qui mesure cette partie-là, ici, avec les deux caméras, où on voit les écoulements, si vous voulez, qui descendent. C'est la vitesse circonférentielle qui est montrée. Et la zone noire, c'est la zone de changement de direction de la vitesse circonférentielle dans cette position et pour ce point de fonctionnement donné. Analyse numérique aussi. Alors, voilà, ça, c'est le gros de mon travail. Qu'est-ce qui me passionne là-dedans? C'est, vous allez trouver ça peut-être étrange ou normal, je ne sais pas, mais l'important pour moi, c'était d'aller comprendre, et c'est toujours d'aller comprendre la nature ou la vie. C'est la même chose, ce serait la même chose. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans mon CV, au début, j'ai sauté 2 ans. Alors, c'est 2 ans où, c'était en 1980, où on se permettait d'aller faire le tour du monde. Alors, j'ai fait le tour du monde à cette époque-là, et ça m'a amené en Inde, en Chine, un peu partout. Et quand on voyage, il y a une chose qui est extraordinaire et qui m'est restée, c'est qu'on vient complètement débalancer. Surtout quand on est en Inde ou dans ces régions-là, la vie est tellement bizarre là-bas pour nous, occidentaux, qu'on est obligé de se dépersonnaliser ou de se dire, oui, mais mes croyances, la manière que je vois les choses, la manière dont j'ai été élevée, c'est un vernis ou c'est ce que j'ai dans ma tête qui fait que je suis solide, que je suis stable, que je comprends la vie, que j'avance. Mais ça ne reste qu'un schéma mental avec lequel je fonctionne. Donc, ayant été déstabilisée par ces voyages, j'aime beaucoup être déstabilisée, puis je continue à le faire dans la vie. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, premièrement, comprendre les écoulements, c'est une chose, mais qu'est-ce qui m'est arrivé au cours de ma carrière? Je me suis dit, je vais aller voir cette histoire de femme en sciences, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, on me demandait souvent pour être sur des comités où ça prenait une femme. Comité d'engagement de prof, etc. Donc, tout le monde, il y en a plusieurs parmi vous qui ont sûrement connu ça. Et je me disais, oui, mais c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je suis posé faire là-dedans? Moi, je suis ingénieur, là, tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est résoudre des problèmes. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait une problématique et j'ai trouvé tout un monde. On en parlait tantôt. J'ai trouvé aussi une manière de voir la vie ou de voir cette question-là comme avec une deuxième paire de lunettes qui n'est pas ma lunette d'ingénieur. Donc, je suis rentrée dans un monde de recherche assez extraordinaire et un monde aussi où j'ai commencé à comprendre la difficulté de certaines femmes autour de moi à rentrer en génie ou en science ou même à s'y implanter et rester. Alors, grosso modo, parce qu'il me reste 5 minutes. Alors, ce fameux ciseau, pour celles qui l'ont déjà vu, c'est la situation actuelle. 99-2000, des femmes et des hommes dans les milieux universitaires, où on voit ici les personnes qui sont graduées, donc c'est des pourcentages. Hein. On a les hommes ici en sciences et génie, les hommes dans tous les secteurs, les femmes dans tous les secteurs et les femmes en sciences et génie. Donc, si on veut, vous avez... baccalauréat, maîtrise, doctorat, assistant professeur, professeur et professeur titulaire. Où on voit que le nombre, parce que c'est des pourcentages, actuellement, le pourcentage de professeurs titulaires hommes est autour de 90% et titulaires femmes autour de 10%. Donc, c'est la situation actuelle. C'est sûr qu'avec le temps, on peut penser hein, que ça va changer, sauf que faut bien voir que ça change peut-être pas vite et qu'il y a des situations qu'il faut comprendre un peu mieux que ce ciseau qui est en train de se refermer. Alors, rapidement sur la situation actuelle, parce que c'est important de la comprendre, je pense. Vous avez, c'est les baccalauréats temps plein et temps partiel, réguliers, temps plein, temps partiel dans les universités du Québec en 2005. C'est-à-dire 99-2005. Les femmes, les hommes, non, les femmes 99, les femmes 2005, les hommes 99 et les hommes 2005, par secteur d'activité. Donc ici en bas, vous avez sciences santé en rouge. En jaune, en vert plutôt, sciences et génie. En mauve, sciences humaines. Éducation en jaune. Administration en vert pâle et des secteurs qui sont plus petits. Alors, je vous fais remarquer tout de suite que si on regarde du côté des hommes, on sait déjà qu'il y a beaucoup moins d'hommes dans les universités que les deux bâtons de gauche qui sont les femmes. Mais ça nous donne aussi le patron de carrière des hommes et des femmes. Donc, on voit que les femmes, en fait, sont distribuées assez régulièrement dans les grands secteurs et que les hommes, par contre, sont très majoritairement concentrés dans les sciences et le génie. La partie verte. Et même pas en sciences santé. L'autre élément que je voulais vous faire remarquer, c'est que le nombre de femmes en sciences et génie diminue au fil des années. Donc, on a déjà eu 20 % de femmes qui étudient en génie au Québec. On est rendu autour de 16-17 %, donc ça descend. Pourquoi? Parce que les femmes s'en vont en sciences santé. Donc, on voit en sciences santé et en administration, mais très majoritairement en sciences santé. Donc, il y a une espèce de vase communicant entre sciences naturelles et génie et sciences santé. Si on prend les deux en sciences, ensemble, sciences naturelles, génie et sciences santé, la proportion est à peu près constante avec la population d'étudiants. Ça me dit une autre chose. Moi, ça me dit qu'évidemment, il y a du décrochage scolaire. Ça me dit qu'on pourrait amener des femmes en génie puis en sciences, mais ça me dit aussi qu'on pourrait diversifier le choix de carrière des hommes. Les garder avec nous et tenter de diversifier leur choix de carrière. Il y a une chose qui n'apparaît pas aussi, là-dessus aussi, c'est le besoin qu'on a de personnel qualifié en sciences et génie qui est plus grand que ce qu'on forme actuellement, donc l'idée de former plus de femmes. Le besoin est justifié, j'en parlais, donc je vais sauter ça. Et les questions qu'on pourrait se poser, puis je vais vous laisser sur une ou deux questions. Est-ce que l'apport des femmes est complémentaire en sciences et génie? C'est une grande question philosophique. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Moi, j'ai plusieurs réponses. En fait, je me suis rendu compte en travaillant avec les femmes et en parlant avec mes collègues que ce qu'elles font, des fois, c'est qu'elles disent il y a des objets de recherche sur lesquels je ne travaillerai pas. Et je vais aussi augmenter la proportion de femmes, ça, c'est une chose qui les intéresse. Mais aussi, je vais organiser ma recherche d'une manière différente et plus collaborative. Donc, ça, c'est ce que j'ai entendu du côté des femmes. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? C'est une question qu'on pourra débattre ensemble après. Alors, cette question-là est arrivée surtout avec Jane Goodall, qui est bien connue, hein, qui a travaillé avec les chimpanzés, où on a dit, elle était très empathique vis-à-vis de son objet de recherche, donc les femmes le sont. Par contre, moi, je sais, j'ai des femmes ingénieures avec qui je travaille et des femmes scientifiques avec qui je travaille qui ont un schéma qui n'est pas celui-là du tout, qui ont un schéma très classique. Donc, il y a de tout un peu dans notre monde. Peut-être qu'il y a d'empathie beaucoup du côté des femmes, mais ce n'est pas toujours vrai. Et les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Puis je pense que je vais vous laisser là-dessus.
Merci beaucoup, Mme Deschênes. En effet, je vous inviterai toutes les deux à prendre place parce que c'est maintenant qu'on commence la portion où on va vous amener à interagir toutes les deux, peut-être à répondre, à donner vos points de vue sur les questions que soulevait Mme Deschênes. Mais tout d'abord, moi, la question qui m'intrigue, vous êtes chacune à votre manière, à un bout et l'autre d'un spectre ou d'une lunette. Mme Deschênes, vous avez vu neiger en 20 ans comme prof dans un département de sciences. Vous étiez d'ailleurs la première femme à arriver comme prof de génie là-bas, la seule étudiante dans un milieu d'hommes au milieu des années 70. Chloé, je soupçonne que vous êtes plus jeune et que donc la réalité que vous avez eue comme femme en génie mécanique est tout à fait différente. Madame Deschênes, je commence par vous. Avez-vous l'impression que la vie des femmes ingénieures en génie mécanique et leur façon d'interagir avec les autres comme femmes ingénieures a changé depuis que vous, vous êtes passée par où Chloé est passée plus récemment?
C'est sûr qu'il y a eu, il y a eu une très, très grande évolution dans le sens que maintenant, même s'il y a 20 % de filles en génie, il y a beaucoup de filles dans les universités en sciences. Celle du baccalauréat, actuellement, bon, quand j'étais toute seule, je faisais mon propre univers, là, c'est facile. Après ça, il y a eu 2-3 filles qui ont eu un peu de difficulté. À partir du moment où ils étaient 4-5, des fois, ils ont eu de la difficulté. Mais après ça, actuellement, on parlerait aux jeunes femmes et puis elles diraient... moi, je vois pas de problème. Puis je suis sûre que Chloé va être d'accord avec ça.
Chloé?
Oui, effectivement. Là, en arrivant...
Vous étiez combien, vous, à peu près, dans...
On était...
milieu des années 90,
mécanique, on était... Oui, milieu des années 90, on était environ 15 % de filles en génie mécanique. Puis l'intégration était vraiment, vraiment excellente. Là.
Vous sentiez-vous différente des gars parce que vous étiez une fille ou ça faisait aucun pli là, sur la différence, pour parler ainsi?
Ben c'est sûr qu'il y a différents regards. Là. des fois, j'avais l'impression que j'étais peut-être pas à ma place ou je mettais sur un piédestal les garçons parce que traditionnellement, tu sais, en génie mécanique, c'est quand même très pointu là, comme domaine des sciences. Puis souvent, on se retrouve avec des garçons qui ont souvent fait de la mécanique, travaillé avec leur père sur la ferme, donc qui ont des notions instinctives que moi, j'avais pas. Donc, il y avait comme une adaptation à cette discipline-là que j'avais à faire. Mais au fil du temps, finalement, c'est même mes collègues, finalement, qui étaient là. « Ouais, franchement, tu sais, t'es pas mal capable. » Parce que des fois, j'avais peut-être tendance
à... Est-ce qu'on disait « t'es pas mal capable pour une fille » ou « t'es pas mal capable, point » »«
T'es pas mal capable, point », là, tu sais, en voulant dire... Bien, parce que moi, des fois, je me disais... Ah, tu sais, je trouvais ça... J'étais là, j'ai pas le même bagage. Puis il y a des choses que j'ai pas instinctives, tu sais, puis je trouvais ça dur, tu sais, de pas avoir ces choses-là instinctives, tu sais. Mais, fin de compte, c'est même dans le regard de mes collègues qui étaient là, non, là, il y a pas de différence, là. Puis, donc... mais c'était... Non, ça a été vraiment des très belles études. Puis le maillage garçon-fille au niveau des travaux, au niveau à tous les niveaux, là, se faisait très, très bien, là.
Avez-vous l'impression, Mme Deschênes, qu'on se préoccupe assez, justement... de la situation des femmes en génie, où on dit le problème est en train de se résoudre tout doucement, les filles vont davantage en sciences de la santé parce que ça les intéresse peut-être plus, mais on n'a plus à pousser sur les filles pour leur dire qu'elles sont capables, qu'elles sont bonnes. Elles le savent et elles font ce qui leur tente.
Oui, j'ai envie de dire qu'il y a ces deux visions qui restent, hein, parce qu'il y a, qui restent encore. Je sais qu'il y a certaines femmes de certains milieux ou jeunes femmes de certains milieux socio-économiques qui n'ont pas de, qui ont moins d'assurance que de d'autres secteurs. Et elles peuvent se sentir pas assez à l'aise pour ces milieux masculins. Et par contre, il y a une grosse majorité, ou il y en a plusieurs en tout cas, qui sont à l'aise parce qu'on leur a montré, qu'elles étaient bonnes en sciences. Elles sont bonnes en sciences, elles sont bonnes à l'école. Elles sont confiantes. Il y a tout le cheminement féministe ou le cheminement des femmes qui a été fait avant qui leur sert beaucoup et qui les porte. Et ça va bien. Là où elle commence à se poser des questions, c'est rendu au deuxième, troisième cycle.
On l'a vu dans les courbes en ciseaux, là, ouais. Que vous sont moins nombreuses.
Oui, elles sont moins nombreuses, mais pas rien que ça. Là, elles commencent à arriver un moment où elles veulent faire une famille et commencent à se poser la question comment j'organise ça avec mon travail, avec ma recherche, comment je m'organise avec le conjoint. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, on disait, Mme Fries et moi, on disait les deux... les filles, s'il vous plaît, choisissez votre conjoint aussi bien que vous choisissez votre carrière. Ce qu'on voulait dire là-dessus, c'était essayer de trouver un conjoint avec lequel vous allez pouvoir être égal. De nos jours, je pense que ça a beaucoup changé.
Je vous entendais si dire, Chloé, que vous étiez enceinte, ou en tout cas que vous aviez deux ans, les deux petits étaient nés à la fin du bac.
Oui, j'ai reçu mon diplôme d'ingénieur enceinte de 8 mois du deuxième, là.
Donc... Comment ça s'est passé? Parce que vous aviez des stages à faire et ainsi de suite.
Non, j'ai pas fait de stage. J'ai fait un stage maman.
Oui.
Ouais, j'ai laissé tomber les stages.
Comment ça s'est passé concrètement au jour le jour alors que vous étiez étudiante dans un univers...
Moi, en fait, j'ai trouvé que la collaboration au niveau des études a été très, très facile avec mes collègues là, à l'école. J'ai trouvé que c'était plus facile d'être mère à l'école que d'être mère sur le marché du travail. Mmh. parce que la souplesse n'était pas du tout là sur le marché du travail, surtout dans les domaines d'ingénierie, où est-ce que c'est quand même... C'est très difficile de dire, ben moi, j'ai des enfants, j'aimerais ça travailler 4 jours. C'est, en tout cas, il y a 10 ans, 12 ans, je dirais aujourd'hui, ça se voit de plus en plus, mais il y a 10, 12 ans, c'était nouveau, là, puis ça m'a un peu... c'est un peu ça qui m'a révoltée dans le monde de l'ingénierie, puis qui m'a fait remettre en question, puis... Je voyais pas beaucoup d'ouverture, mais je pense que ça tend à changer. Là.
Par la force du nombre, dont les filles étant plus nombreuses, elles arrivent à faire changer les choses?
Oui, mais aussi parce que les papas y embarquent, évidemment. Oui. Là, puis avec les mesures gouvernementales, je pense que ça ouvre vraiment la voie à dire ben autant les papas que les mamans, là, ils ont envie de prendre ce temps-là pour accueillir leurs enfants puis offrir quelque chose de bien pour leur famille. Là, donc,
Madame Deschênes, c'est une réalité que vous observez quand vous voyez les chiffres que vous avez étudiés de près jusqu'en 2005 sur donc la présence des femmes au niveau d'études supérieures. C'est lié donc au congé parentaux, à la maternité, au fait qu'on se détache un peu du parcours professionnel. Est-ce que les gars aussi commencent à avoir cette tendance-là?
Moi, je les vois, les hommes sur le marché du travail ont une préoccupation pour la famille. Et même qu'actuellement, j'ai un étudiant au doctorat qui est en congé de paternité pour 2 ans.
Avez-vous l'impression, par ailleurs, qu'on a beaucoup parlé des femmes en sciences et en génie, mais qu'il y a un retour du balancier et que c'est peut-être sur le cas des garçons dont on devrait se pencher, même s'ils sont plus nombreux dans l'absolu, que proportionnellement, ils sont plus nombreux à aller dans l'ingénierie, mais globalement, quand on va à des niveaux d'éducation inférieure, ils décrochent davantage de l'école secondaire et ainsi de suite. Est-ce qu'on n'a pas trop focusé sur les filles parce qu'il y avait un déficit en laissant derrière les garçons?
Je pense qu'il faut aujourd'hui se préoccuper des deux. Les deux.
De la même manière, avec les mêmes moyens, ou ça demande une intervention
qui va être ciblée? Ça demande des interventions qui sont différentes. Je ne vais pas parler des types de recherches qu'on fait pour aider la relève. Mais pour aider la relève, on peut parler de psychologie, on peut parler d'éducation, on peut parler de sociologie, on peut parler de tous ces éléments-là. Et il y a des recherches là-dessus. Et il y a des recherches qui sont faites aussi localisées dans tel secteur, dans tel type de ville, dans tel environnement, où on voit des différences très nettes entre les garçons et les filles. Et plus on va en savoir, plus on va être capable de cibler les actions pour faire bouger les choses. Donc, pour les garçons et pour les filles.
Mais les filles jeunes, ça va bien à l'école. Les garçons jeunes, on a plus de misère à les retenir. C'est quand, en vieillissant, les garçons qui persistent ont un milieu qui serait peut-être plus favorable, alors que les filles varieraient leur intérêt, ou on n'a aucune idée?
Bien, les filles varient leur intérêt. Ça, les filles varient leur intérêt, vous l'avez vu dans les chiffres. Alors, ouais. Moi, ça m'a étonnée, parce qu'il y a quelques années aussi, on l'a fait au Conseil du statut de la femme. D'ailleurs, on disait il faut varier le choix de carrière des filles, parce qu'on disait elles ne vont pas en sciences et génie. Mais quand on regarde les chiffres, on a l'impression qu'il faut plutôt varier le choix de carrière des hommes, parce qu'on a 25% des garçons, des jeunes hommes actuellement, qui étudient à l'université ou baccalauréat, étudient en génie. Donc, ils sont moins ailleurs, si on veut. Et donc, c'est un élément sur lequel on pourrait... On doit se pencher, je pense, comme société.
Est-ce que c'est ça qu'on veut? Suffisamment?
Certainement pas. Non.
Qui devrait le faire?
Oui. Là, vous m'embarquez dans d'autres choses. Parce que ma grande déception pour la chaire de 97 à 2005...
La chaire de recherche.
La chaire de recherche pour les femmes en sciences, qui était aussi dans l'action, c'est de ne pas avoir été capable de changer les proportions de femmes en sciences et génie.
Donc, vous aviez tout un défi quand même.
Oui, mais comme ingénieur, c'est comme si je l'avais raté. Donc, les ingénieurs dans la salle vont comprendre que j'ai raté mon objectif. Mais ce que j'ai compris, par contre, à la fin, c'est que pour avoir des interventions efficaces, ça prend la recherche, mais ça prend aussi la concertation de tous les intervenants, que ce soit les intervenants scolaires, les parents, les gouvernements et le milieu social. Associatif qui devrait travailler de concert et bien informé.
Chloé, qu'est-ce qui vous a fait allumer pour prendre cette filière-là, au-delà du fait que vous étiez bonne en sciences? C'est vraiment qu'on vous poussait ou il y avait un intérêt intrinsèque là, qui venait du fond de vous? Ça vous tentait?
Je pense que c'est un mélange. C'est un gros mix. Évidemment que quand on a de la facilité dans quelque chose, spontanément, on a tendance à vouloir aller là-dedans. C'est sûr que moi, j'ai été élevée aussi par une maman scientifique là, qui était prof de mathématiques. Donc, il y avait déjà... Pour moi, il y avait quelque chose qui allait de soi aussi. Donc, j'ai grandi là-dedans. Mais ça a été un choix plus rationnel à la base, plus de sécurité, puis c'était pas de la science à tout prix. C'était pas la science à tout prix. J'aimais beaucoup les sciences, mais j'avais un champ très diversifié d'intérêts aussi. Mais il y avait quelque chose pour moi aussi de naturel d'aller en sciences. Puis comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était d'arriver
Génie, plus précisément.
En génie. Et moi, j'étais à une époque où est-ce qu'on était à la fin un peu d'une récession, où est-ce que le taux d'emploi n'était pas si grand que ça. C'était assez, on sortait de ça, là, mais on était encore dans cette perspective-là. Dans les années 90. Et puis, bon, on disait, bon, les domaines où est-ce qu'il y avait de l'emploi, il y avait certains domaines du génie, mais pas tous les domaines. Aujourd'hui, c'est le contraire, il en manque. Donc, j'ai fait un choix aussi quand même en fonction des besoins de la société là, pour pouvoir me placer là, adéquatement. Là.
Je me tourne maintenant vers vous parce que si vous avez des questions à poser à Chloé Legris, à Claire Deschênes, je vous invite à le faire. Madame, oui, vous pouvez peut-être vous présenter avant de vous soumettre votre question.
Je m'appelle Lucie Suzanne Messier, je suis au certificat de sciences en environnement à l'UQAM. Avant, j'étais en éducation relative à l'environnement avec Mme Lucie Sauvé, une de mes mentors. Puis je suis comme en dilemme avec vous deux, parce qu'il y a une émission culte que je manque jamais, c'est Découverte, et c'est là que j'avais vu votre travail à vous. J'avais trouvé extraordinaire, je disais, elle nous a mis ça à map, ça se peut pas. Puis, à l'opposé, ben, j'ai signé en ligne la pétition contre le dégât qui va se faire au Nord. Moi, c'est comme la terre, c'est ma maison, c'est précieux, là. Scrapez-la pas. C'est comme... je veux pas ça. Puis, bientôt, au mois de mai, nous, on va avoir le congrès d'éducation relative à l'environnement. Et puis... c'est Mme Lucie Sauvé qui nous a appris comment c'était précieux de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs pour revenir chez nous, puis d'essayer le plus possible de respecter ce qu'on a. Puis moi, depuis le temps que j'ai étudié, ce que j'ai vu, c'est qu'on est des hyper gros gaspilleurs d'eau comme c'est pas possible. Mm-hmm. Puis ma question, c'est, est-ce qu'on devrait pas... J'ai même écrit une lettre à la ministre de l'Environnement, dont j'ai jamais eu. Puis Radabaska, là, moi, l'affaire là, du truc méthanier, je suis absolument contre. Ça se peut pas, c'est complètement idiot, cette affaire-là. Parce que finalement, ce que j'ai compris, c'est que nous, on est les espèces de passeurs d'énergie pour nos voisins, les États-Unis. Et je les déteste, je m'excuse.
Avez-vous l'impression, madame, que le fait qu'on ait plus de femmes va stimuler une empathie et qu'on va peut-être être davantage attentif? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Parce qu'on est ici pour parler des femmes en sciences et en
parce que je me rends compte que dans mes cours, on est vraiment à 90% plus de... Ben, je dis 90, j'exagère, là. Je dirais à peu près à 85% plus de filles, de femmes que de gars. Ben, puis les gars qui résistent là-dedans, je veux dire, il faut qu'ils y croient vraiment.
Ben écoutez, je vous remercie de votre commentaire, madame. Merci. Alors, l'empathie, les femmes, le fait qu'on soit plus sensible, est-ce que c'est une variable? Est-ce que les femmes sont les porteuses de cette variable-là ou est-ce que tout le monde ne peut pas prendre aussi sa part de responsabilité, Anna?
Je pense pas que c'est nécessairement une question de sexe là, par rapport à cet engagement-là environnemental parce que moi, je l'ai vécu en commençant en ingénierie. J'avais pas beaucoup de perspectives liées à la protection de l'environnement à travers l'ingénierie. J'avais peut-être une vision limitée, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, la connaissance, les professions techniques et scientifiques peuvent à la fois contribuer justement au développement durable et à la protection de l'environnement, comme elles peuvent stimuler la surconsommation. Donc, c'est tout dépend de ce qu'on fait comme individu dans nos choix professionnels. Puis à partir du moment où moi, j'ai eu cette perspective-là de dire, mon Dieu, j'ai un rôle important comme scientifique et c'est là que je veux le jouer, ce rôle-là, ben, moi, j'ai été totalement à l'aise là, avec ça. Puis je pense qu'il faut aussi faire attention. Le danger aussi, c'est pour ça que je trouve ça le fun que le milieu scientifique, le milieu de l'ingénierie s'approprie les solutions environnementales parce que souvent, quand on est trop dans un pont, dans une extrême de vision environnementale, on oublie parfois, on réagit émotivement. Et puis d'avoir des solutions, de proposer des solutions, je pense qu'elle est là, la voie de proposer des solutions au changement, puis non pas de juste être émotif face à des problèmes environnementaux.
Madame Deschênes?
Ben, j'aime beaucoup la réponse de Chloé. Je pense que j'irai exactement dans le même sens. Dans le sens que c'est pas en niant le fait qu'on utilise l'énergie qu'on va trouver des solutions pour faire une meilleure énergie. Par contre, il faut quand même baisser notre consommation et réduire ce qu'on n'a pas besoin. Et je pense que ça va se faire avec les scientifiques, avec les technologies. Et bon,
c'est pas parce qu'on est une fille qu'on a plus d'empathie, comme vous l'avez évoqué.
Ouais, ben on l'a beaucoup mentionné dans le passé. Peut-être qu'on l'a naturellement, mais je pense que de toute manière, la science et la technologie s'en vont vers ça. Et les hommes qui sont dans les universités le comprennent très bien aussi.
On a intégré la variable environnementale dans les cours de génie maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, probablement. Ou pas à cette échelle-là, en tout cas.
J'allais dire qu'il faudrait convaincre nos politiciens.
Oui?
Bonjour, je suis Rachel Légère, je suis du Biodôme. J'ai beaucoup aimé vos présentations. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un côté qui manquait. On parle de science et génie ici. Vous êtes deux femmes en génie. Donc, des domaines qui sont quand même valorisés, qui sont quand même payants. Au Biodôme, on reçoit des centaines de CV de gens en biologie, de gens en chimie, en physique. Et ce sont ces domaines-là des sciences qui, malheureusement, connaissent le plus grand déclin parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de... Et ce côté-là, j'ai trouvé qu'on avait un peu escamoté dans la présentation parce que je crois qu'une fille qui va en génie aujourd'hui a quand même espoir de se trouver un emploi, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les autres branches où on voit vraiment les gros déclins. Moi, je suis biologiste marin de formation et je suis dans les chanceuses qui ont pu trouver un travail dans le domaine scientifique, un travail qui me permet de vivre et de bien vivre, ce qui n'est vraiment pas l'adage de la plupart des filles dans les autres sciences que le génie. Je ne sais pas, Madame Deschênes, si dans les statistiques que vous montriez tout à l'heure, science et génie sont mis ensemble, mais il y a quand même beaucoup de différences, je crois, avec...
Il y a une bonne proportion de femmes en biologie, c'est autour de 40%.
Et les débouchés?
Si je ne me trompe pas. Mais les débouchés, la question est très pertinente parce qu'il y a beaucoup moins de débouchés. Alors, ça dépend si, quand on parle aux jeunes femmes ou aux jeunes de la relève, on leur dit oui, mais est-ce que vous voulez... Ben, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'effectivement, il y a des carrières qui portent plus au point de vue carrière ou au point de vue... il y a plus de débouchés, il y a plus de salaires, les salaires sont plus grands en sciences et génie, il y a moins de travail. Par contre, il faut quand même y aller avec nos intérêts personnels. Et si ton intérêt est en biologie plutôt qu'en machine, ben il faut quand même suivre ses intérêts. Puis je me demande si avec le temps, et puis justement avec la société qui change, si on n'en aura pas de plus en plus besoin.
Mais on a valorisé, c'est vrai, le génie, parce qu'il y avait des déficits à cet égard-là pour les filles en génie. Est-ce que ça s'est fait au détriment des autres, de la valorisation des autres filières et des débouchés également?
C'est-à-dire que le discours que moi je tiens, aller en génie, si vous pensez que vous allez aimer le génie, allez-y, parce que de toute façon, vous allez trouver de l'emploi, c'est une bonne carrière, c'est intéressant, etc. C'est sûr que je porte cette voie-là, mais ça ne veut pas dire que les autres voies sont pas intéressantes. C'était quoi la question?
C'était la question, c'est est-ce que les filles qui vont en biologie, on a insisté beaucoup sur le fait que les femmes devaient aller en génie, mais celles qui vont en sciences pures, qu'est-ce qu'il y a pour elles, pour les soutenir? Est-ce qu'elles ont besoin d'un soutien supplémentaire en termes de débouchés, d'autres, de perspectives?
Ben, c'est une bonne question dans le sens que on a créé un génie... on a créé un génie biomédical ou bio, je ne sais pas quoi. Il y en a un aussi. Tous ces génies-là qui sont bio quelque chose sont extrêmement populaires. Et je suis certaine qu'il va y avoir du travail pour elles par après. Est-ce que c'est le discours et puis le discours économique, le discours des besoins de la société est différent de là où s'en vont les jeunes. Donc, c'est sûr que quand tu es jeune, tu ne regardes pas les statistiques et dire ben, plus de travail là ou la société a besoin de plus d'ingénieurs que de biologistes. C'est embêtant.
C'est la même chose au niveau des sciences humaines. Hein. C'est tu t'en vas infirmière ou en professeur ou secondaire. Versus faire juste un bac en histoire ou en géo, c'est beaucoup plus difficile aussi au niveau des sciences humaines dans les domaines plus qui sont pas des domaines qui donnent lieu à une profession. Tu sais, professeur, tu deviens prof après, ingénieur, tu deviens ingénieur après, biologiste, tu peux travailler dans toutes sortes de domaines. Donc, j'ai l'impression que c'est des domaines d'études qui sont effectivement plus difficiles de se placer, peu importe que ce soit en sciences ou en sciences humaines, à cause qu'ils n'ont pas comme une profession très définie. Mais je crois aussi, pour avoir travaillé proche des parcs nationaux un peu partout, puis on voit un peu en développement durable de plus en plus le besoin de ces scientifiques-là, qui sont des scientifiques de la science pure, là, finalement, qui ne sont pas des sciences appliquées. Donc,
les applications sur lesquelles on travaille vont demander de plus en plus de travailler en conjointement. Parce que si on veut faire des turbines qui sont bonnes pour les poissons, eh bien, il faut comprendre les poissons.
Mm-hmm. Madame? Oui, Anne-Marie Simard, recherchiste pour l'émission Le Code Chastanier à Télé-Québec. Moi, ma question, c'est, on sait de plus en plus que le cerveau des hommes et des femmes n'ont pas la même architecture, que les hommes, c'est plus, on dit, orienté objet, puis les femmes, ça va être un cerveau plus latéralisé, plus avec plus de force dans la communication, puis le langage. Puis comment est-ce que, ma question s'adresse d'abord à Claire Deschênes, comment est-ce que évidemment, toutes les femmes ne sont pas pareilles, vous l'avez dit, mais je pense qu'en général, c'est un peu vrai. Comment est-ce que ce cerveau-là peut s'adapter à la recherche scientifique qui, on pense, qui, surtout en génie, fit plus avec une architecture cérébrale masculine?
Je pense qu'on regarde la recherche de manière trop instrumentale. On regarde l'objet de recherche, mais la recherche, elle se fait en équipe. T'sais, quand je dis que j'ai 6 étudiants et 2 professionnels, on doit travailler ensemble. Puis une des qualités que le chercheur ou le directeur doit avoir, ou la directrice doit avoir, c'est de l'empathie pour comprendre où en sont les gens avec qui ils travaillent. Est-ce qu'ils ont un problème une journée? Qu'est-ce qui se passe? C'est des qualités qui sont typiquement féminines, non?
Mais et les gars peuvent en faire part aussi, bien Dieu sûr. Merci, mais oui.
Bien sûr, mais non, on l'a dit tantôt, oui. Les femmes ne sont pas toutes pareilles, les hommes ne sont pas toutes pareilles. Mais si on parce qu'elle me pousse dans un coin, mais si on parle des qualités dites féminines que peuvent aussi avoir des hommes, on va le dire comme ça, effectivement, on en a besoin pour le travail. Et la communication, et l'organisation du travail, et l'empathie, et tous ces éléments-là qui sont pas seulement sur l'objet de recherche.
Est-ce que les femmes ont tendance à choisir d'autres sujets de recherche que les hommes? Est-ce que les intérêts varient un petit peu en génie, même dans votre domaine?
On le dit. Moi, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais effectivement, on le dit. Il faudrait étudier ça ici au Québec, qu'est-ce qui se passe.
Ouais. Merci.
Je me permets de vous poser une question, puis je vais évoquer un triste anniversaire dont on va entendre malheureusement abondamment parler en décembre prochain, le 20e de la tuerie de Polytechnique. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? On a beaucoup identifié la haine pour ces femmes qui étaient en génie, qui a donné lieu à ce massacre, à cette tuerie folle il y a une vingtaine d'années. Avez-vous l'impression que ce ressentiment-là envers les femmes, qu'encore aujourd'hui, il y a un fond du genre, on sait bien, c'est une femme, c'est pour ça qu'elle est là, si c'était pas une femme, les femmes prennent la place des hommes. Est-ce que vous sentez encore, 20 ans après Polytechnique, qu'on a ce genre de discours-là, socialement? Madame Deschênes, tout d'abord.
Il y a eu une évolution sociale, ça fait 20 ans, hein? Il y a eu une évolution sociale.
Ça va
sociale,
faire 20 donc, ans, en décembre.
Oui, quand c'est arrivé, je pense que au Canada, au Québec en particulier, la population s'est rendue compte que, oh, qu'est-ce qui arrive avec nos filles, en particulier nos filles en génie. Donc, il y a eu un éveil social, une conscientisation via les médias aussi. Puis, quand j'ai commencé la chaire, bien, effectivement, c'était une question qui était très populaire et très pertinente. Et tout le monde disait, ah oui, on va travailler sur les femmes en génie, etc. Les femmes en sciences ne sont pas là. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte, parce qu'on évolue. On s'est rendu compte que, ah, ben il y a beaucoup de décrochage scolaire, puis les garçons décrochent plus, il faudrait peut-être s'en occuper aussi. Donc, il y a une évolution dans le temps qui est importante depuis une vingtaine d'années. Mais le fond reste, et on entend encore des choses.
Vous l'entendez encore?
Oui, on entend encore des...
Chloé, quand on vous voyait arriver avec votre sourire, vos yeux pétillants, parler de lumière à des agriculteurs ou dans des cours à bois, vous disiez, oui, ma belle-fille, qu'est-ce que tu veux? Avez-vous eu
oui,
droit
ma petite
à ça?
Madame.
Ma petite madame. On vous a...
Mais moi, j'ai bien vécu avec ça. J'ai étudié dans un univers d'hommes, donc c'est un univers avec lequel je me sens relativement à l'aise. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas ce qui s'est dit dans mon dos. Puis il y a même le maire de Notre-Dame-des-Bois qui me dit, au début, on trouvait ça bien beau, tes affaires, mais on croyait pas mes mains. Je pense que c'était plus... Puis c'était pas personnel au fait que j'étais une femme ou pas. Je pense que c'était plus l'espèce de cause hyper flyée de dire, on va sauver nos étoiles. Là. Mais ceci dit, moi, ce que j'entends à travers ce qui se dit là, c'est que finalement, les femmes ont réussi à investir certains lieux qui étaient plus traditionnellement masculins, puis à prendre leur place. Mais ce qu'il y aurait à dire par rapport à ces commentaires-là, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je pense que c'est une détresse, effectivement, tu sais, chez les hommes qu'il peut y avoir, puis on en entend beaucoup dans les médias aussi.
Avec les difficultés économiques, des jobs rares dans certains
domaines. C'est ça, exactement. Donc, je pense que ça parle plus d'une détresse. Puis, tantôt, je soulevais, tu sais, mais comment ça se fait qu'on ne voit plus d'enseignants, tu sais, aussi? Sont où les enseignants pour nos petits gars aussi, leur donner le goût des études? Sont où les modèles masculins? Moi, j'ai deux garçons, donc je trouve que c'est un débat qui est très, très large, évidemment. Puis,
avec la situation économique, il pourrait avoir un autre tour de balancier qui soit à l'encontre des femmes, qui disent « bon, ben, on va engager les hommes ». Puis les femmes, c'est beau, mais...
Vous pensez vraiment?
On le verra. Hein? En tout cas, il faut être vigilante.
Donc, même aujourd'hui, en 2009, il faut continuer à être vigilante. Il y a des bons qui ont été faits, mais les acquis peuvent être jusqu'à... On peut dire qu'ils sont fragiles dans certains cas ou...
Fragile.
Ils sont là pour rester.
Bien, fragile, je ne suis pas sûre qu'en Amérique du Nord ou au Québec en particulier, c'est fragile. Hein? Mais si on regarde l'ensemble de la planète, bien sûr, c'est fragile. Ouais.
Mais à l'inverse, je dirais qu'il y a des préjugés aussi défavorables qui commencent à s'incarner, des fois, même auprès des travailleurs masculins, comme quoi les filles sont plus travaillantes. Donc, il y a des préjugés inverses aussi. Puis ça, c'est, je l'ai entendu d'un homme d'une soixantaine d'années. Là. Engage des filles, ça travaille mieux.
Ouais.
Donc... Non, mais c'est juste pour dire que les gars, il va falloir qu'ils la prennent leur place, puis aussi qu'il faut les aider à la prendre, cette place-là. Effectivement, tu sais, moi, je suis vraiment pour l'égalité, mais l'égalité, c'est ça aussi. C'est...
Et dans la conciliation travail-famille, il y a aussi un bout où les femmes dans tous les domaines, dans le domaine des sciences et génie, doivent également apprendre à interagir avec un milieu professionnel exigeant, puis des exigences familiales et une vie de famille, et équilibrer tout ça aussi. Ça, c'est une autre clé du succès.
Oui, définitivement. Donc, définitivement. Mais fondamentalement, on parle des différences hommes-femmes, je pense qu'il faut vraiment aussi tenir compte de ça dans l'ensemble, que ce soit conciliation de travail-famille. Il faut tenir compte des différences, que toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais globalement, moi, on me donnait le choix, c'est ton chum qui va rester à la maison ou c'est toi? C'est hors de question que ce soit mon chum qui reste à la maison. Non, mais dans le sens que c'est moi, c'est fondamentalement comme mère, je ne me voyais pas être seule qui travaillait. Mais ça, c'est moi. Mais je pense que beaucoup de femmes, pour le partager avec beaucoup de femmes qui sont des professionnelles, il y a quelque chose aussi qu'il faut aussi respecter, se respecter comme femme aussi, puis ben, trouver un équilibre à travers tout ça. Là.
Avec le recul, est-ce que vous pouvez voir l'impact que ça a eu sur votre carrière, ce genre de décision-là? Est-ce que ça a eu un impact?
Sûrement, mais en même temps, je pense que...
Pas nécessairement négatif, là.
Ben, ni l'un ni l'autre, mais je pense... Je dirais positif parce que, justement, j'ai eu cette chance-là de pouvoir prendre le temps d'être avec mes enfants et de ne pas me surmener et puis d'être totalement énergique dans ce que je faisais, totalement de travailler avec mon cœur. Puis je pense que, justement, quand on travaille avec son cœur, bien, on réussit à faire des grandes choses puis à être bien. Puis le bien-être familial, je pense qu'il est important, mais autant pour les hommes que pour les femmes, parce qu'on vit un niveau de stress quand les deux travaillent avec des enfants qui est très, très grand. Puis il faut vraiment arriver à beaucoup plus de conciliation. Définitivement.
Madame Deschaines, je soupçonne que vous avez pu observer cette variable-là aussi lorsque vous êtes penchée de près et vous avez analysé à la loupe là, les femmes en sciences et génie, le rôle, l'impact de la famille sur leur engagement.
Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, y a des études qui montrent qu'elles elles sont particulièrement organisées. Je vais revenir encore aux questions de résolution de problèmes. Donc, elles ont tendance, ou les jeunes familles ont tendance à s'organiser comme une petite PME. Donc, aussitôt, si on deux salaires. Mais je pense que ce n'est pas rien que les femmes en génie qui vivent ça.
Non, ça, je pense que oui. Des plusieurs quarts de travail. Celui qui commence après le boulot, durant le boulot et avant le boulot.
Et la personne qui vient tondre le gazon, puis la personne qui, quand on peut se le permettre, vient faire le ménage, puis tout ça.
Alors, à moins que vous ayez des questions... madame, oui, je vous laisse la chance de poser la dernière question
Oui.
Mon nom est Geneviève Manceau. Je ne suis pas dans le domaine scientifique, je suis psychopédagogue. Je me rappelle la première intervention qui est apparentée à la mienne. Je me demande s'il existe une influence des femmes scientifiques sur la conception du développement. J'ai travaillé pendant 5 ans de ma vie en milieu autochtone. Je pense au plan Nord. Est-ce que c'est du développement? Dans quel sens et pour qui?
Je ne connais pas le plan Nord. Là. Vous parlez, j'imagine que vous parlez des turbines. Là.
Je parle du plan Nord du gouvernement Charest, de l'idée des travaux sur la rivière La Romaine, du fait que les Autochtones n'ont jamais été consultés au préalable, comme j'allais dire, comme souvent, sinon comme d'habitude. Alors voilà, je répète ma question. Est-ce que le plan Nord, c'est du développement? Et est-ce que les femmes scientifiques peuvent avoir une influence sur la conception du développement dans notre société?
Oui, j'en ai parlé un petit peu, mais je suis à côté de mon champ, dans le sens que je n'ai jamais participé à aucune discussion avec des Autochtones ou aucune décision sur le développement dans le Nord. Donc, c'est difficile pour moi de répondre. Par contre, je pense qu'effectivement, la population doit être vigilante. Les Autochtones doivent être consultés. Ils sont consultés. Est-ce qu'ils ne sont pas consultés au bon moment? C'est vous qui pouvez me le dire. Mm-hmm. J'en sais rien. De ce que je sais, par contre, j'irai dans le même. Comme on disait un peu tantôt, je ne suis pas certaine qu'il faut développer le Nord. Je ne suis pas certaine, par contre, qu'on puisse passer de l'hydroélectricité. Peut-être je vais encore répéter que c'est une force pour le Québec, l'hydroélectricité, et qu'il ne faudrait pas le voir seulement que négatif. Il faut le contrôler, il faut que tout le monde s'assoie à table, il faut le faire de manière intelligente. Je dirais, est-ce que les femmes ont leur place là-dedans? Certainement.
Bien, écoutez, je vous remercie infiniment, tout le monde, d'avoir assisté à cette rencontre. Et c'est moi qui ai l'honneur de piger sur le sac ici pour l'attribution de ce livre qui est écrit sous la direction d'une équipe dont fait partie Mme Deschênes, qui s'intitule « Le leadership des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques » et qui est paru aux presses de l'Université du Québec. Alors, le numéro gagnant est le 3-5-40-12. 35-40, nous avons ici une gagnante qui a l'air ravie. Alors, madame, j'ai ici le livre pour vous. Écoutez, c'est je vous remercie beaucoup d'être venue, d'avoir pris le temps. Ah, bon, en plus. La maman de... Et c'était pas arrangé, je le jure. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence midi. Deux femmes et la science, organisée ici à la Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec en collaboration avec Science pour tous. Claire Deschênes, Chloé Legris, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler de vos carrières, de votre expérience également. Ça a été très apprécié. Merci.
Merci. Merci. Merci.